des hangars, des marchés.
Radio Campus 93.3. Bienvenue à toutes les oreilles qui nous écoutent. Bienvenue sur Radio Campus 93.3 dans l'émission Oui Dire, une émission consacrée aux arts de la parole et plus particulièrement à l'art du conteur et à l'univers de la littérature orale. Aujourd'hui, pour vous guider dans le monde mystérieux du conte, voici Laurent avec sa chronique ethno. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Alors Laurent, tu nous parles de quoi aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on va parler du petit pousset et de la petite poussette. Celle-là, je ne sais pas si vous la connaissez, mais vous verrez, c'est une nouvelle venue dans les contes.
Merci Laurent. Fred et Monique sont également là pour animer cette émission avec moi. Bonjour les filles.
Bonjour,
bonjour Fred. Et bien sûr, Pierre à la technique, sans qui rien ne serait possible. Coucou Pierre.
Salut.
Ces derniers temps, il s'est passé pas mal de choses dans les environs autour du conte, ce qui nous a permis de faire de très belles rencontres. Vous allez découvrir deux conteurs que nous avons eu la chance d'interviewer à l'issue de leur spectacle. Tout d'abord, Yannick Jolin, qui a présenté son nouveau spectacle au Forum Rexy à Rion. Et puis Yves Durand, qui a emmené les spectateurs de la Petite Gaillarde au Pays des Menhirs. Mais avant tout ça, allons-nous perdre dans la forêt du Petit Pousset en compagnie de Laurent et des filles.
Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants, tous garçons. L'aîné n'avait que 10 ans et le plus jeune n'en avait que 7. Il vint une année très difficile et la famille fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Un soir, que ses enfants étaient couchés et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit, le cœur serré de douleur. « Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux et je suis résolu de les mener perdre demain au bois. Ce qui sera bien aisé, car tandis qu'ils s'amuseront à fagoter, nous n'avons qu'à nous enfuir sans qu'ils nous voient. »
Ah ! S'écria la bûcheronne, pourrais-tu bien toi-même mener perdre tes enfants ?
J'ai une affection particulière pour les contes qui prennent le parti des petits, des faibles, de ceux qu'habituellement on oublie. Le petit pousset est sans doute le plus célèbre d'entre eux. Ses parents, poussés par la misère, l'ont abandonné avec ses frères et sœurs dans un coin reculé de la forêt. Ses enfants vont vivre les pires dangers, mais jamais le petit pousset ne perd l'espoir. Il a toujours en ressource quelque idée ingénieuse. Et rappelez-vous, il finit par sauver non seulement ses frères et sœurs, mais aussi ses parents, puisqu'il va les délivrer de la misère. Aujourd'hui comme hier, les enfants en errance ont besoin que nous, les adultes, leur racontions des histoires. Je veux dire des histoires qui aident à vivre, qui aident à s'y retrouver dans les jungles modernes, qui montrent le chemin sans en avoir l'air. Nous communiquons beaucoup avec les moyens les plus rapides, mais savons-nous encore raconter ce genre d'histoire ? Moi, je trouve que les conteurs d'aujourd'hui, ceux qui ont cultivé et qui réinventent le conte de notre époque, pourraient nous aider à réapprendre l'art de la parole, le geste du conteur, attentionné, désintéressé. Au-delà de la parole pédagogique et de la parole commerciale qui impose des choix tout faits. Il y a cependant une question qui se pose. Peut-on aujourd'hui raconter les mêmes histoires qu'hier ? Je veux dire, à l'heure des séries télévisées, de Facebook, des SMS, etc. L'anthropologie de toutes les cultures du monde montre que l'on ne reste jamais sans histoire. Là où certaines formes s'épuisent, de nouvelles apparaissent. Et ainsi, jamais l'art de raconter ne meurt. Il survit à toutes les catastrophes et à toutes les métamorphoses. Aujourd'hui, les immenses forêts où l'on pouvait rencontrer des loups n'existent plus à la porte de nos villes et de nos villages. Mais on peut tout aussi bien se perdre dans la jungle de la complexité moderne. Qui nous aidera à nous retrouver dans ce nouveau monde qui est notre propre création ?
Laurent, tu dis que aujourd'hui il n'y a plus les forêts où on trouvait les grands loups, mais est-ce que les enfants ont toujours peur des loups ?
Alors, le loup est toujours le symbole de l'animal sauvage qu'on craint un peu, mais à l'époque du petit chaperon rouge, par exemple, les enfants risquaient vraiment de rencontrer des loups dès qu'ils sortaient de leur village.
Ah oui, donc c'était vraiment...
Bon, maintenant, il existe d'autres formes de violence et de bestialité, etc., mais moins sous l'image immédiate que pouvaient avoir les enfants à l'époque des loups, etc., et des autres bêtes sauvages.
D'accord.
La petite poussette, je ne sais pas si vous avez entendu parler de celle-là. La petite poussette, c'est une, on va dire, une invention de Michel Serres, philosophe des sciences, membre de l'Académie française. Il a, en quelque sorte, repris l'ancien conte avec cette petite différence, c'est que l'héroïne est cette jeune fille qui, par l'agilité de ses pouces, envoie partout autour d'elle des messages avec de tas de petites histoires, hein, sur des claviers virtuels ou pas virtuels. Les chemins s'assombrissent, mais je crois très fort que si la crise déclenche des malheurs, les enfants nous sauveront tous, comme dans le conte. Mais il y a une condition, que nous prenions soin de ce trésor inépuisable que nous avons là, entre nous, à portée de main. L'art sans cesse renouvelé d'enchanter le monde par la magie des mots, même quand il ne ressemble plus tout à fait à l'image que nous en avons, nous, les plus âgés, dans notre tête.
Dans Petite Poussette, tu as l'air de dire que c'est plutôt les filles qui utilisent leurs pouces, c'est moins les garçons.
Bah, Michel Serres dit que les filles sont plus, plus agiles, plus intelligentes dans la complexité actuelle et que c'est elles qui s'en sortent mieux, qui s'y retrouvent plus facilement. C'est pour ça qu'il a eu l'idée de remplacer le petit pousset par la petite poussette. Petite poussette, ça s'écrit comme le petit pousset avec P-O-U-C-E-D-T-E. Hein, justement parce qu'elle écrit à toute vitesse avec son pouce et communique maintenant de cette nouvelle manière-là qui nous surprend toujours un peu.
Oui. Est-ce que tu pourrais nous citer quelques lignes de Bruno Bettelheim sur les contes de fées ?
Oui, alors donc je citais tout à l'heure le petit pousset et l'analyse qu'on peut en faire. Cette analyse est extraite justement d'un livre de Bruno Bettelheim qui s'appelle « Psychanalyse des contes de fées ». Alors, je pense qu'on peut rendre un certain hommage à Bruno Bettelheim, même s'il a été très controversé, parce que c'est quand même lui qui a redonné ses lettres de noblesse au conte en disant non seulement c'est des belles histoires, mais aussi, quand on y regarde un petit peu plus près, ils portent du sens, ils apportent des choses vraiment importantes. Alors, voilà un petit extrait, justement, d'un des textes de Bruno Bettelheim, psychanalyste. Alors que dans la vie réelle, nos épreuves n'ont malheureusement pas toujours une fin heureuse, écrit Bruno Bettelheim, c'est l'espoir qui nous soutient. Bien que s'agissant en fait d'une lapalissade, il n'est pas inutile de souligner que c'est l'espoir d'une conclusion heureuse qui transforme une situation désespérée en une autre, peut-être, qui sera supportée avec courage. C'est parce que l'homme ne peut se passer d'espoir que les contes de fées sont aussi vieux que l'humanité et qu'on les trouve dans tous les lieux habités de la Terre.
Oui dire, Radio Campus 93.3.
Merci beaucoup, Paul Laurent, pour ta chronique ethno. Je t'ai pas coupé la parole, hein, t'avais terminé. Alors à propos justement de loups, puisque tout à l'heure tu nous parlais des loups, on en a rencontré un drôle de loup, nous, il y a quelques semaines. Nous avons eu la chance d'assister au spectacle Conteur, de Yannick Jolin. Spectacle dans lequel il renoue avec ses racines de conteur. À la fin de la représentation, il nous a accueillis dans sa loge pour un petit entretien. Nous étions sous le coup de l'émotion d'après-spectacle, les poils encore dressés sur les bras, les yeux brillants, le cœur qui battait la chamade. Et voilà ce que ça a donné.
Bonsoir Yannick Jolin et merci beaucoup de nous avoir accordé ce petit moment. Là, vous sortez tout juste de scène. Donc nous sommes à Rion, au Forum Rixi, et vous avez fait, je crois, beaucoup de voyages pour arriver jusqu'à nous.
Non, m'en parlez pas, j'ai failli ne jamais arriver parce que la SNCF maintenant a enlevé les voies ferrées et donc le train il est obligé de tortiller dans la campagne pour arriver jusque dans ces pays reculés où on se croirait après la bombe atomique tellement il n'y a plus rien pour arriver jusque là.
Oui, mais la campagne était belle.
À peine, il mouillait. Vous n'allez pas me dire que la campagne est belle dans votre pays. Si vous essayez de trouver des avantages dans un pays paumé, perdu et complètement désespéré comme le vôtre.
Il y a moins de neige qu'à Paris.
Bah justement, c'est pas ce que vous avez fait de mieux. Le seul truc était beau avant, ici c'était la neige, il n'y en a plus, rien.
Non, en tout cas, on était absolument ravis de vous accueillir ici.
Ah bah c'est super.
Je crois que vous étiez déjà venu en plus par ici.
Moi ?
Oui.
Je m'en rappelle plus. Ah.
Voilà, chers auditeurs, c'était Yannick Jolin.
Je suis venu il y a 2 ans pour les sentiers de la tourmente avec l'Auvergne imaginée.
D'accord. Et ouais.
Mais qui était un spectacle sur le suicide. Donc c'est pour ça que ça m'a filé une patate de la mort.
Et c'est pour ça que vous êtes venu le faire en Auvergne, ce spectacle.
Ouais. C'est un roi mortel de France.
Moi, c'est la première fois que je vous vois sur scène, donc j'avais un petit peu entendu parler de ce que vous faisiez. Et d'après ce que j'ai compris, dans ce spectacle-là, vous revenez un petit peu sur tout ce que vous avez créé avant. Et il y a un peu de tout, ou comment le choix s'est fait, en fait ?
Bah, il se fait tous les soirs différemment. Mmh. Donc, en fait, c'était le... Ça fait des années, moi, que tous les 3 ans, il faut pondre un nouveau spectacle pour rentrer, justement... dans un certain nombre de critères, j'ai une compagnie conventionnée, j'ai des comptes à rendre, et j'étais aussi fatigué de ça, c'est-à-dire de créer tous les jours, puis là, avec l'envie de me retourner derrière et de me dire, mais le conteur, il a d'abord un répertoire. Moi, j'ai commencé, les premières histoires, moi, c'était Adelina Mago, dont je parlais à la fin, c'était une vieille dame qui avait un répertoire petit, mais c'était le sien, unique. C'était les histoires d'Adelina, qui pouvaient être racontées que de cette façon-là, par cette femme-là. Et moi, je me dis, en me retournant, ben oui, ces histoires-là, ce sont les miennes, c'est ma seule richesse, c'est ce répertoire. Et il faut revendiquer pour un conteur l'idée d'avoir un répertoire. Le pire pour le conte, c'est les gens qui sont capables de faire les mercenaires du conte. On leur demande un jour d'aller faire des histoires norvégiennes, le lendemain d'aller faire des histoires africaines. Ça, pour moi, c'est l'horreur absolue. Enfin, ça peut se faire dans le cadre, pourquoi pas, le travail de bibliothécaire où on est en train de faire de la transmission. Mais ce n'est pas un travail de conteur au sens où le conteur est lié forcément à un répertoire. Et lié à des histoires qu'il a fait sienne, qu'il a pris et qu'il a ingurgité, dégurgité. Et donc j'ai voulu, moi, replonger sur ces 25 années de répertoire, et ça a évolué forcément. J'ai pas raconté le même type d'histoire, parce que moi, jusqu'en 2000, j'ai raconté vraiment des contes traditionnels réinvestis. Et puis à partir de ce temps-là, j'ai plutôt fait des spectacles qui étaient plus théâtralisés, où j'avais une envie de dramaturgie, de travailler sur des formes narratives plus longues, quoi. Et là, j'avais envie de me retourner là-dessus, mais pas en les reprenant, pas en faisant un best-of, au contraire. En faisant une espèce de découpage en direct des histoires, en étant capable d'aller les foirefouiller dedans, de les étriper, de vraiment de faire une espèce de performance comptée, quoi, qui était une manière, en fonction de mon état, de pouvoir aller fouiller dans cette caisse à outils formidable d'histoire, et puis de voir comment ça peut réagir devant les gens. Donc il y a une envie aussi, forcément, moi je suis pas du tout, j'ai horreur du conte qui fait rêver, c'est comme on dit, des contes désincarnés, comme ça. Le conte, il est charnel, le conte. Le conte, c'est d'abord un corps. Ça, les conteurs oublient ça. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs le pire qui puisse arriver au conte, c'est que les comédiens se mettent à raconter des histoires parce que les comédiens, ils ont un travail physique. Ils savent ce que c'est qu'un travail physique. Et quand ils viennent sur un plateau, il y a leur présence. Des fois, c'est au service d'histoires peut-être moins intéressantes. Alors que les conteurs ont des vraies histoires, mais ils n'ont pas d'engagement physique parce qu'ils n'ont pas fait ce travail physique. Et donc moi, dans un spectacle comme ça, j'avais aussi envie de montrer l'amplitude d'un travail de conte sur un plateau. en allant à la fois dans des histoires très engagées physiquement et des histoires totalement détachées, totalement... en allant vraiment dans l'intime, comme quand je descends dans le public pour aller raconter dans le noir.
Et c'est ça, c'est assez impressionnant enfin, d'arriver à passer comme ça. Au début, je dois dire que j'étais un peu déstabilisée de passer du coq à l'âne. Et au bout d'un moment, on se laisse complètement prendre. On arrive à passer d'un registre à l'autre comme ça. Je ne sais pas si les amis qui sont autour ont des réactions par rapport à ça. Mais c'est assez incroyable de pouvoir avoir un bout d'histoire et quand même avoir l'essence de cette histoire et rebondir sur une autre. Je ne sais pas s'il y a des réactions.
Au-delà de la performance physique qui est claire et de l'engagement que vous avez sur scène tout au long du spectacle, j'ai envie de dire, on dit toujours que la vie est accompagnée de plein de musique. C'est-à-dire que dès qu'on pense à une musique, on pense à un instant de vie. Et on a l'impression que le spectacle est réellement construit comme ça. C'est-à-dire que, comme si c'était une autobiographie mise à nu, comme ça, devant le public, de votre vie de conteur, du début de la scène jusqu'à aujourd'hui, avec des événements marquants comme Mohamed Ali.
Oui, il y a forcément de ça. Forcément, que je parle que de moi, on parle que de soi. Justement, quand on raconte une histoire qui ne parle pas de soi, ça veut dire qu'on a raté sa... On peut aimer des histoires pour ce qu'elles sont. Et quand on les raconte, elles sont forcément... Il faut arrêter de penser, de dire, de véhiculer cette idée que le conteur se cache derrière son histoire. C'est du pipeau, ça, c'est de la théorie fumeuse de formateur de contes qui, à un moment donné, il doit y avoir un équilibre. C'est vraiment la symbolique de la croix. Le vertical et l'horizontal. C'est-à-dire, le porteur de l'histoire et l'histoire doivent être à égalité. C'est dans ce jeu-là qu'il y a cette espèce de confrontation entre une... On se bagarre physiquement avec une histoire. On est dans un rapport charnel, vraiment qui est dense, quoi. Il doit y avoir cet équilibre-là. Et bien sûr que je parle que de moi à travers ça, à travers ces séries d'histoires. Et aussi de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'endormir les gens avec mes histoires, mais c'est de les réveiller, c'est de les ébranler. Et si au début je fais des histoires qui ne sont pas finies, c'est vraiment pour déstabiliser et mettre. Je perçois l'effet déstabilisant et ça met les gens mal à l'aise. Un bout d'histoire, une histoire pas finie, mais ça frustre les gens d'une manière absolument incroyable. C'est une expérience assez intéressante.
Et du coup, sur les histoires justement qui vous ont construit en tant que conteur, les premières histoires qui vous aidaient à pas avoir peur du noir, c'était lesquelles exactement dans toutes celles-ci quand vous avez commencé? Parce que vous parlez de choix de répertoire, et moi je pense aux conteurs d'aujourd'hui et ceux qui commencent et comment ils font aussi, parce que il y a des histoires qui tout de suite vont dire vous cognez là-dedans, et puis et en même temps on se pose plein de questions. Et vous, les premières qui vous ont donné envie de raconter, c'était lesquelles? On a.
Ben c'est les premières, c'est vraiment... Moi, je ne savais même pas que c'était, je pourrais faire un métier. Moi, j'étais fils de paysan de Vendée, je ne savais même pas qu'il pouvait vivre d'un art. En tout cas, ce n'était absolument pas dans ma géographie personnelle. Donc, et j'ai commencé à collecter les histoires. Ce sont des histoires collectées qui m'ont donné... Parce que j'ai commencé à les raconter devant des gens. Parce que on était dans un mouvement d'éducation populaire, inventaire de la culture populaire orale. Et les premières fois que j'ai raconté, c'était devant... dans un foyer d'anciens où on allait raconter l'histoire qu'on avait collectée. Il y avait des anciens et une école, c'était très symbolique, transmission, etc. Et quand j'ai commencé à raconter ces histoires, mais ce jour-là, à la minute précise où j'ai raconté, j'avais l'impression vraiment d'un fil qui se tendait avec les gens et d'avoir l'impression tout d'un coup là que j'étais à ma place. Et après, je suis monté sur une scène pour les raconter. C'est pareil, chaque fois que je me suis mis à raconter des histoires, je me disais, mais oui, là est ma place.
La place du conteur, et donc la place du conteur aujourd'hui dans notre monde, puisque c'est ce dont vous
parlez. C'est chacun la sienne, il n'y en a pas une globale, et de penser qu'il y aurait la même place pour chacun de nous ici, non. Il y a des gens qui sont infiniment meilleurs que moi à une table de café, à raconter des blagues, mais à les raconter avec une espèce de de vélocité, d'aisance, de malice, génial. Il y a des gens qui sont avec des gamins, moi je les regarde faire, c'est formidable, travailler d'objets, etc. Moi, j'aime bien le plateau, j'aime bien la scène, j'aime qu'il y ait... sans doute parce que j'avais des compensations d'enfance, il fallait que je me fasse remarquer, famille nombreuse, l'aîné, j'ai pas eu la place qu'il me fallait, donc j'ai essayé de me rattraper après, quoi. Donc, tu vois, mais enfin bon, après, toutes les explications psycho à deux balles, mais j'aime le plateau, c'est sûr. Et, et je suis moins à l'aise vraiment dans un partage très immédiat du conte. Et le conte peut avoir cette fonction. Donc chacun doit trouver sa place. Je ne pense pas que tout le monde. La place des conteurs n'est pas toute sur le plateau. Après, il ne faut pas mélanger les fantasmes et sa richesse, sa singularité. Et identifier sa singularité, c'est le premier travail du conteur.
Et vous parlez de votre amour du plateau. Alors j'ai une question très bête. Quand je suis arrivée, quand on était dans la salle en train de boire un coup et d'attendre que ça commence, vous faites quoi pendant les 10 premières minutes avant d'entrer en scène?
Ben là aujourd'hui, ce que je fais souvent quand même, c'est exercice d'étirement. Voilà, j'ai fait un peu de saut à la corde parce que j'avais été coincé dans le train toute la journée. Mais je fais un travail physique, ouais, souvent.
D'accord, ouais. Plutôt ouais. Physique. Mmh.
Okay. Puis un peu de concentration, puisque là j'ai besoin d'être en connexion avec moi pour me mettre un peu plus en disponibilité. Mais ce travail sur compteur, il commence juste quoi, pour moi. Mmh. Vraiment, je pense que j'ai encore plein de fils à tirer, plein de mon répertoire, parce que là je peux commencer à tomber dans les facilités maintenant que je commence à avoir fait une bonne année de voix. Donc la mécanisation, il faut que je m'en méfie.
Ouais, je peux pas vous quitter sans vous demander des nouvelles de Pougnérisson.
Ça va pas très bien.
Alors, juste petite précision pour les auditeurs. Alors, j'espère que je dis pas de bêtises parce que j'y suis jamais allée. Mais donc, c'est un village et a priori, c'est un village légendaire où toutes les histoires du monde seraient nées. C'est bien ça.
Au moment de ce qu'on appelle le Big Bang mythologique.
Ouais, c'est
tout,
ça.
Tous les germes d'histoire, tout ce qui se raconte dans le monde entier, c'est parti de Pougne au moment de ça, cette espèce de première. Éruption, ouais. Et donc nous on a fait un jardin des histoires autour de ça, autour des pierres où on a identifié vraiment l'épicentre de cette explosion là. Il y a un jardin d'histoire, il y a un festival tous les 2 ans. Dans le jardin d'histoire, on reçoit 4 à 5 000 gamins tous les ans qui viennent écouter des contes, travailler sur les mythologies, sur la création d'histoire. Et puis le festival est un drôle de festival où il se passe plein de choses. On est par exemple le premier village de moins de 400 habitants jumelé avec l'étoile polaire. On fait des choses comme ça.
Les gens dorment.
Les gens dorment beaucoup de siestes. Mais cette année, on a fait un festival, on s'est pris un gros gadin financier. Et suite à ça, forcément, il y a toujours, quand il y a des moments de crise et d'angoisse, l'équipe a un petit peu subi le contre-coup de ça. Donc actuellement, il y a une période. Alors, il y a eu une mobilisation formidable, vraiment, avec plein de spectacles de soutien, plein de choses qui se sont faites, qui ont été vraiment formidables. Il y a un élan, et je pense que sur le terrain, même si on enterre des choses, forcément, vous savez bien, hein, quand il y a des choses qui sont
en danger,
détruisent, ça fait du ferment. Quoi.
C'est du fumier que naissent les plus belles roses, on est bien d'accord. Et est-ce que vous auriez une petite adresse mail, justement, pour que les gens, peut-être, se tiennent au courant, ou s'ils ont envie de soutenir, ou
site internet voilà. du Nombril, oui. ou par le mien aussi, yannickjolin.com ou nombril.com. Ce sont 2 sites qui peuvent aller visiter pour avoir à la fois des nouvelles de Pougne et à la fois des nouvelles de la compagnie, mais aussi des infos
sur les réseaux sociaux.
Mais en tout cas, on vous remercie beaucoup de nous avoir accordé ce moment. Et puis, bonne route avec Compteur.
Je vous en prie, j'avais même oublié que vous étiez auvergnat. Oui. J'ai failli être sympa avec vous. Bordigal.
Merci beaucoup.
Salut.
Merci.
Radio Campus 93.3.
Nous venons d'écouter un extrait de l'album Stéréophonie de Virginie Basset et Johann Jacquemot. Il vient tout juste de sortir et c'est un pur régal. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site de Virginie Basset, www.virginiebasset.com, et vous régaler à nouveau. Après avoir fait la connaissance de Yannick Jolin, nous vous proposons maintenant d'écouter une de ses histoires, Merlicoquet, un conte de randonnée. Accrochez-vous, car le conteur rock vendéen nous fait tourner la tête entre patois vendéen, musique et ritournelle. Car comme le dit le conteur, je crois que les contes ont plus à faire avec le chant qu'avec le parler. Et ce qui reste d'un conte quand tout a été oublié, c'est la ritournelle, la mélodie qui a bercé une enfance et parfois une vie.
Il y a des gens qui sont comme ça. Des gens qui pourrissent la vie des autres gens. C'est l'histoire de Merlicoquet, qui avait pas d'argent, qui était pas content. L'histoire de Merlicoquet, qui était toujours tellement pas content qu'il embêtait le pays tout entier. Il était en procès avec tout le monde et tout le monde avait peur de lui, de ses avocats, de ses menaces. Il était méchant. Et les gens méchants, personne n'ose leur résister quand ils sont trop méchants. Les petits gens méchants, des petites méchancetés, on peut résister, mais pas les trop méchants. C'est pour ça qu'ils ont tout le temps raison sur la terre. Et lui, Merlicoquet, il meloune en plus, il meloune tout le temps, toujours jamais content. Et ce matin-là, il aurait pu être content, il trouve un énorme épi de blé, genre un OGM plus, énorme. Et il ramasse, et dit comme ça il va l'amener au moulin, et peut-être qu'il va être riche. Et le soir, il arrive avec son épi de blé chez Quatre Fesses, un bistrot où il y avait deux femmes qui servaient, Quatre Fesses. Et il demande s'il n'y aurait pas une place pour lui puis son épi de blé. Oh, madame, oui. Laissez donc l'épi de blé en blas. Personne n'y touchera. Puis vous montrez vous coucher là-haut.
Et pendant la nuit, le problème, c'est que dans la cour, il y avait une jeune poule. Une jeune poule adolescente. Adolescente insomniaque et boulimique. Et dans cette nuit-là, dans cette nuit sans lune, elle est entrée dans la cuisine, elle a mangé l'épi. Oh, quand le matin est arrivé, Merlicoquet était pas content. Déjà qu'il était pas content au réveil, mais là, il était vraiment pas content du tout. Et il a dit, il va lucher une avocat, il va venir aux USA, le barbe et tout, couper la chine comme on en fait en Amérique. Il va lucher une avocat, il va venir aux USA, le barbe et tout, couper la chine comme on en fait en Amérique.
Eh oh, Merlicoquet, ne nous en faites pas tant coûter. Eh oh, Merlicoquet, ne nous en faites pas tant coûter.
Le lion doute et la poule. Le lion doute et la poule.
Et là, Merlicoquet s'en va avec sa poule. Il marchait, mais il était pas très content quand même. Il meloonait, parce que de toute façon, il était pas content, jamais content. Il avait sa poule. Puis le soir, il arrive au Cocardie avec sa poule. Et il dit, vous pourriez pas me coucher, moi, puis ma poule? Oh, bah oui, on va mettre la poule avec le cheval. Et puis vous, vous montrez vous coucher tout en haut.
Mais pendant la nuit, la poule, elle est partie pour aller manger l'avoine du cheval, parce que comme c'était cette petite poule qui était en plus boulimique et insomniaque et très adolescente, et là, forcément, le cheval, il a pas aimé ça. Le cheval aime pas quand on vole dans son assiette. Il a donné un gros coup de sabot. Et au matin, le cheval avait écrasé la poule. Et là, Merlicoquet s'est fâché.
Il va lucher une avocat, il va venir aux USA, le barbe et tout couper la chine comme on en fait en Amérique. Il va lucher une avocat, il va venir aux USA, le barbe et tout couper la chine comme on en fait en Amérique.
Eh oh, Merlicoquet, ne nous en faites pas tant coûter. Eh oh, Merlicoquet, ne nous en faites pas tant coûter.
Veillons donner le cheval. Veillons donner le cheval.
Ah ben, t'es content d'avoir un cheval charmant. Et le soir, il arrive avec son cheval au bœuf couronné. Eh, dites, vous aurez pas de la pièce pour moi puis mon cheval? Oh, mesdames, messieurs, monsieur Merlicoquet, vous allez mettre votre cheval là, dehors, dans la cour. Personne n'y touchera, puis vous, vous montrez vous coucher dans la chambre.
Et puis dans le matin, la fille de la maison qui rêvait du prince charmant sur son beau cheval, alla laisser partir le cheval par la barrière ouverte. Et le cheval, c'était parti, loin d'ici. Et le merlicoquet était tellement fâché.
Il va hucher une avocat, il va venir aux US, le marbre pour couper la chine comme on en fait en Amérique. Il va hucher une avocat, il va venir aux US, le marbre pour couper la chine comme on en fait en Amérique.
Eh oh, merlicoquet, ne nous en faites pas tant coûter. Eh oh, merlicoquet, ne nous en faites pas tant coûter.
Le lion donné la vie, le lion donné la vie.
Il a mis la fille dans un sac et il a mis le sac dans le tombereau. Et l'après-midi, il est arrivé tout en hériguette, tout en joie. Il est arrivé à la place du paradis, il va à l'hôtel du paradis, il demande une chambre et il dit « Oh, c'est bien, c'est une chambre pour moi, le paradis !» Il met son sac dans la chambre et il s'en va boire une chopine avec la femme à Gabi, le tueur de Gorée. Elle, la pauvre drôlesse, elle est pleurée, est gênée dans le sac. Elle pleurait, elle qui rêvait tant au prince charmant. Et puis de l'autre côté arrive un beau gars, c'était le gars qui était le garçon de chambre. Et il entend cette fille qui pleure, qui chante. Et là, il entre le garçon quand il entend cette voix de sirène. Il ouvre le sac et il met le gros chien noir d'accueil à la place. Il referme le sac et il s'en va avec cette femme. Et lui qui a remplacé la jeune fille par le chien noir, il va devenir le petit caniche de cette femme qui rêvait d'un prince charmant. Oh, Seigneur. Et il se sauve avec elle, et quand Merlicoquet arrive un peu ivre, ivre de joie de retrouver cette beauté, il ouvre le sac, et qu'est-ce que l'a fait le chien? Qu'est-ce que l'a fait le chien, le gros chien noir? Qu'est-ce que l'a fait le chien? Qu'est-ce que l'a fait? Il a fait quoi? Il a fait quoi le chien? Il a fait quoi le chien? Il a sauté au cou, et il l'a mangé tout cru.
Si cet extrait vous a mis l'eau à la bouche, rendez-vous le 24 mai, car Yannick Jolin revient se présenter son spectacle Conteur, Conteur au Sémaphore à Sébaza. Et maintenant, ne fermez pas les écoutilles, car après le patois vendéen, voici un morceau en occitan.
Lugalambus, benum beire, douce cumon de melus, pas a peu un com que vous tenez, pas jamais parlant d'amour. Il va en plaire, la manopro, c'est vous pour un conquistar, pas a peu un com que vous tenez, pour un papus caligna. Un galambos, l'un figlio, fal un bel temps que n'a pas, corona pas, fa maravillo, c'est la fête, tout va plat. Un galambos, l'un figlio, fal un bel temps que n'a pas, corona pas, fa maravillo, tout à codi, rora pas. Los galambus ven un beire, dos escumo de melus, mas a pei un cop que vostè no fa jamai palon d'amor, mas a pei un cop que vostè no fa jamai palon d'amor. Cada galamba li la filla, palo del bel corona pas, corona pas fa maravilla, palo manyà que tumba pla. Cada galamba li la filla, palo del bel corona pas, corona pas fa maravilla, mas tu t'acordi d'hora pas. Prenes l'ubuns de filiotos, prenes l'utan, que la vez, en que serás maridado, lubo un tempus pasará, en que serás maridado, lubo un tempus pasará. Se me pasó, que me pase, ya me volí marida, a comer smuntata la testo, me le daba la rapaz, a comer smuntata la testo, me le daba la rapaz. Pase quasi, no se mano, Mario Beni, me libri, el lo celebo en panelo, lubo el papá y relangui, el lo celemo en panelo, lubo el papá y relangui.
Abio papá, sat la porto, li futin, biro baiten, hoy aquel de mundo y bruñazo, que vende per los camarets. Li bo fa passar en bello, de surti tutto la nuit, aquel hay ma ples, un estrazo, placen de inmetar na gas. A tus umpas, las promesos, campas dios, lu curtizú, araroneri, que me estreso, y su teu no
93.3.
Donc, vous venez d'écouter un morceau du dernier album de La Malcoiffée. C'est un album en occitan et le morceau s'appelle « Prenez du bon temps, jeune fille ». Titre qui s'impose, me direz-vous, à l'approche de la semaine des droits des femmes, qui va donner lieu à plein de lectures, spectacles et autres interviews radiophoniques dès la fin de la semaine. Justement, en parlant des femmes fortes, Laurent, tu nous as parlé de la petite poussette, la nouvelle petite poussette, mais l'ancienne poussette d'Andersen. Est-ce que vous vous souvenez qu'on avait marié avec un méchant crapaud et qui avait bien su s'en sortir ? Laurent, toi qui as lu Bettelheim, qui as su mettre en lumière l'importance des contes de fées, peux-tu nous en parler ?
Oui, je termine le petit extrait de Bruno Bettelheim sur l'espoir dont je vous avais parlé tout à l'heure, en rebondissant sur l'histoire de la petite poussette d'Andersen que vient de nous citer Fred. Donc, Bettelheim disait, c'est parce que l'homme ne peut se passer d'espoir que les contes de fées sont aussi vieux que l'humanité et qu'on les trouve dans tous les lieux habités de la Terre. Ils ont été inventés parce que l'homme a besoin de donner corps à ses angoisses comme en ses espérances. Ce faisant, il est à même de surmonter ses frayeurs par ses efforts, ses prévisions et sa confiance en l'avenir. Le fait de raconter et d'écouter des contes de fées a réjoui l'homme tout au long de son chemin à travers les âges, depuis son origine obscure jusqu'à aujourd'hui. Ils peuvent toujours exercer leur influence apaisante et encourageante, particulièrement au début de la vie de chaque individu, pendant l'enfance.
Et pour compléter, Laurent, ta chronique, je vais proposer une bibliographie avec quelques livres. D'abord, celui de Bruno Bettelheim qui présente les contes de Perrault. Donc, c'est chez Seger. Ensuite, il y a le livre La psychanalyse des contes de Bettelheim, donc qu'on trouve en livre de poche. Et puis La petite poussette de Michel Serre, chez Le Pommier. Voilà donc ces trois livres.
Eh bien, à moi de donner les actus autour de la littérature orale et des contes, car elles sont nombreuses ce mois-ci. Dès mercredi, ne manquez pas la troisième édition du festival Jeune Public Saperlipopette et compagnie, qui aura lieu du 6 au 8 mars 2013, donc. Ce sont trois journées de spectacle pour les enfants de 0 à 12 ans, avec du conte, beaucoup, mais de la musique, de la danse, du clown, du théâtre, des chansons, et avec la collaboration d'une dizaine d'artistes qui nous invitent à les rejoindre pour partager quelques instants de magie ou de poésie, avec plein de spectacles pour tous les goûts et tous les âges. Nous en connaissons d'ailleurs certains de ces conteurs. Je pense à Christine Buteau, à Sène Aiège, Nathalie Tibur et d'autres que j'oublie. Mais n'hésitez pas, réservez à La Petite Gaillarde au 04 73 36 05 36. Amenez vos enfants, neveux et autres petits voisins. C'est au 9 rue Abbé Bagnier à Clermont-Ferrand et c'est un prix très abordable. Il y a aussi Françoise Glière qui n'est plus à présenter, qui comptera des petites vies ordinaires à la Grange aux Aires à Aulois le 16 mars, tout en poursuivant ses histoires à rêver à la bibliothèque de Royon le 13 mars. Et faut-il le rappeler aussi, le mois de mars est aussi celui de la poésie. Le printemps des poètes commence dès le 9 mars avec plusieurs manifestations que vous trouverez aisément sur le net, suivi par la semaine de la poésie du 16 au 23 mars qui accueillera Tahar Bekri et de nombreuses lectures de poèmes autour de la Méditerranée et d'ailleurs. Et dans le cadre des journées régionales de la culture et du handicap, le 5e festival de culture dans tous les sens verra le jour du 26 mars au 16 avril. Il y aura plein de belles choses à voir, du théâtre, des marionnettes, du mime et un conteur nantais que l'on aime beaucoup et que l'on espère bien recevoir à la prochaine émission, Marc Bulléon. Donc, qui comptera le 10 avril à 15h à la Maison de la Culture pour son spectacle « À portée de voix ». Il compte avec talent la vie de jeunes autistes, devenant chacun d'entre eux avec une justesse, une sensibilité et une générosité hors normes. Et le mercredi 13 mars à 10h30 à la mairie de Pont-du-Château, c'est l'histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler, qui sera contée par les ateliers du Capricorne.
Exactement.
Voilà. Naturellement, on n'oublie pas le CAF-Conte, chaque deuxième mardi du mois, au Café Lecture des Augustes, un Geneviève. Et il aura lieu le 12 mars, donc à 20h30, et il laissera la part belle au Conte de deux femmes, femmes de conte, dans le cadre de la Semaine des droits des femmes. Alors, abandonnez vos écrans et n'hésitez pas à sortir pour régaler vos yeux et vos oreilles avec le spectacle vivant.
Venez nombreux. Mais le temps passe et malheureusement, il passe vite. Le moment est venu de nous quitter. Je n'oublie pas, je n'oublierai pas, et c'est Fred qui le fera tout à l'heure, de vous proposer notre énigme. Mais avant tout, je veux remercier les deux Fred, Laurent et Pierre qui sont dans ce studio. Mais également Christine Buteau-Bourguignon qui a interviewé Yves Durand. Ainsi que Yves Durand, qui nous a réservé de son temps. J'oublie pas non plus...
Monique, attention, on a un problème de continuum espace-temps. Yves Durand n'était pas là aujourd'hui.
Ah oui, excusez-moi.
Mais ne vous inquiétez pas, il sera avec nous la prochaine fois.
Désolée.
Il n'y a aucun problème, je te laisse continuer. Ça arrive des fois, les trous noirs comme ça, il y a des choses étranges qui se passent dans l'univers.
Mais également Yannick Jolin, donc, du coup je suis toute troublée. Yannick Jolin, donc lui qu'on a bien écouté ainsi que son conte.
Tout à fait.
Pris au vol entre deux spectacles ou entre deux trains. Voilà. Et donc, maintenant, je laisse la parole à Fred pour l'énigme.
Et oui, la fameuse devinette que nous vous proposons à chaque fin d'émission. Alors, je ne sais pas si quelqu'un se souvient de la devinette qui avait été posée la dernière fois.
Oui.
Est-ce que quelqu'un... Ah ?
Moi, je m'en souviens.
Ah, je le savais. Heureusement que Fred est là.
Alors, c'était quelque chose comme « J'ai 5 bœufs attelés à la charrue ». Cette charrue dépose une semence noire sur la terre blanche. Qui suis-je ?
Tout à fait. Et on avait même une petite variante qui faisait cette charrue laboure la terre blanche ou noire. Mais j'aime bien la version de la semence. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée ? Est-ce que quelqu'un connaît la réponse ? Pierre, ça dit quelque chose ?
Non.
Vous avez même pas cherché, bravo.
Si, j'avais écouté l'autre fois, j'étais pas là, j'avais écouté, mais j'ai
oui,
pas
oui, t'étais malade, c'est vrai. Mais là, ça va, je vous rassure, il a les joues bien rouges, tout va bien.
Noir et blanc, des touches.
Et Laurent, alors, peut dire qu'il a pas trouvé non plus, d'ailleurs.
Il a pas trouvé, ah oui, bah voilà, bon, il a pas bien cherché non plus.
Non.
Alors, je vous rappelle les petits éléments. Il y a 5 bœufs, une charrue, une semence noire sur la terre blanche. Les 5 bœufs, ce sont les 5 doigts.
De la main.
La charrue, c'est le stylo. La semence noire,
c'est l'encre.
Et la terre blanche, la feuille. C'est l'écriture.
Que c'est beau.
Très beau. On parlait de poésie tout à l'heure et la poésie et le conte vont bien ensemble aussi. Alors par contre, bien voilà, vous n'avez pas cherché. Eh bien moi, je n'ai pas trouvé de nouvelles devinettes pour cette fois-ci. Mais j'ai quand même quelque chose à vous conseiller si vous vous ennuyez d'ici la prochaine émission. Je vous conseille d'aller faire un petit tour sur le site de France Inter et de réécouter l'émission sur les épaules de Darwin, l'émission qui date du 23 février et qui s'appelait « L'illusion de la fin de l'histoire ». Parce que dans cette émission, le chroniqueur illustre son propos avec ce qui se passe dans le cerveau du conteur et de celui qui écoute pendant que l'histoire est racontée. Et c'est vraiment passionnant. Je vous la conseille très très fortement. Et puis, si après avoir écouté l'émission, vous vous ennuyez encore un petit peu, il y a plein de choses à faire sur Internet, ou dehors.
Ou dehors.
Le printemps, mais vous pouvez emmener votre ordinateur dehors. Non, je ne suis pas geek du tout. Mais vous pouvez aller faire un petit tour sur le site de Yannick Jolin pour en apprendre un petit peu plus sur lui, donc yannickjolin.com. Vous pouvez aller écouter le violon de Virginie Basset sur www.virginiebasset.com. Et vous pouvez aussi faire un petit tour sur le site de l'agence Cirventes, pardon, qui est l'agence qui fait tourner le conteur Yves Durand, que nous rencontrerons la prochaine fois, et le groupe La Mal Coiffée, que nous avons écouté pendant l'émission. Voilà, moi je crois que je vous ai donné tous les conseils que je pouvais vous donner pour bien occuper votre temps d'ici la prochaine émission.
Et justement, donc rendez-vous dans notre prochaine émission qui aura lieu le 15 avril. pour donc une rencontre avec le conteur Marc Bulléon et puis donc Yves Durand.
Voilà, tout à fait.
Voilà, alors en attendant, prenez soin de vos oreilles. Dorlotez-les, chouchoutez-les et pensez à nous les ramener la prochaine fois.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Dire.
Oui dire.
Oui dire.
Oui dire.
Oui dire.
Oui dire.
Sur Radio Campus 93.3.
Oui dire.